Amen. Amen. On va reprendre notre quatrième point de la vie de Élie. C'est marqué numéro 5, mais c'est le 4. Quatrième point de la vie de Élie. Élie, l'engagement et la préparation des moments décisifs ce matin. Quand on regarde la vie de certains hommes et certaines femmes de Dieu, je pense que vous en faites partie. Vous avez Dieu dans votre vie, vous pouvez avoir quelques années déjà où vous avez fait ce choix de suivre Dieu. Et pourtant, vous constatez comme moi que certaines personnes ont comme une vie plus droite, plus belle, plus marquée pour Dieu. Quand je compare même dans ma famille, quand j'essaye d'analyser avec un petit peu de recul, je me demande mais pourquoi certaines personnes ont comme si c'était une route droite, avec une marche de progrès en progrès, alors que d'autres, enfin c'est en tout cas comme ça que je perçois, font des zigzags sur la route. Et je me suis penché sur cette question et je pense que Élie a une des réponses pour nous ce matin. Je crois qu'il y a des temps dans notre vie que j'appelle des moments décisifs, des moments de position, des moments de choix qui impliquent un risque. C'est des moments importants de notre vie, on va les voir tout à l'heure, et c'est ces moments qu'il faut pas manquer. Et en tant que chrétien, il y a des temps importants, il y a le temps de la conversion, il y a le choix des amis. C'est une bascule, ça, en fonction des personnes que vous allez prendre à vos côtés quand vous êtes jeune. C'est un moment de bascule, c'est un moment déterminant dans votre vie. Il y a le choix de vos études. Il y a votre capacité à vous attacher à Dieu ou à tout quitter au moment de l'épreuve. Ça, c'est aussi un moment où beaucoup de choses peuvent basculer. Il y a le moment du mariage, le choix du conjoint. Certains, à partir de là, vont partir en zigzag. Il y a le temps de votre recherche d'emploi, de votre choix d'un lieu de vie, quand vous allez devoir vous positionner sur un logement, sur un endroit où vous allez habiter, le choix de votre église. Certains ont fait des priorités et vous voyez, entre deux chrétiens qui aiment le Seigneur et qui prient, qui lisent leur Bible, certains vont avoir une vie beaucoup plus droite que d'autres parce que dans les moments décisifs, les moments des choix, ils ont vraiment su se positionner pour mettre Dieu en premier. Et ça fait toute la différence sur le long terme. C'est vrai aussi dans le travail, c'est vrai au moment de la tentation. Au moment des grands choix, il est important d'être un homme de Dieu comme l'a été Élie. On ouvre ensemble notre Bible dans le livre des Rois au chapitre 17 et j'espère que tu vas pouvoir avoir des pensées de Dieu pour toi ce matin. Chapitre 18, pardon. Un roi, chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Au verset 1er, 1 Roi 18 verset 1er. Voilà, vous cherchez dans votre Bible avec moi. 1 Roi 18 verset 1er dans la version Semeur, je lis. Bien des jours s'écoulèrent. Bien des jours s'écoulèrent. Au cours de la troisième année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes: Va trouver Achab, je ferai pleuvoir sur ce pays. Vous n'avez pas dit Amen. C'est parce que vous n'avez pas connu la sécheresse qu'a vécu Élie. Parce que si vous aviez autant soif que lui avait soif ce jour-là, vous auriez dit un Alléluia de tonitruant. Parce que, vous voyez, ça faisait des années, ça faisait 3 années. La Bible dit bien des jours s'étaient passés. Vous vous rappelez ces jours? C'était quoi les jours? C'est ces jours que l'on a vus ces 3 dernières semaines. On a vu qu'il est passé par ce moment de kérite, de mise sur la touche, dans une caverne, nourri par des corbeaux, les jours qui passent et qui se ressemblent, enfermés, bloqué, frustré, et les années passent. Comme toi, peut-être, tu as vécu ça. Puis après, l'amélioration, la promotion de Dieu, c'était d'être nourri par une veuve à Sarepta. Pas Bettencourt, hein, comme je vous ai dit. Une pauvre pauvre veuve qui n'avait rien, rien du tout. Seigneur, quel est ton plan ? Camp d'entraînement de Kérit, enchaîné par une nouvelle époque où son caractère est préparé à Sarepta. Et après, on l'a vu la semaine dernière, il a vécu le rejet, aussi bien le rejet de cette personne proche qui était cette veuve, il a dû affronter le rejet et l'incompréhension de Abdias, un chrétien. Puis après, il a dû accepter le rejet, le mépris du roi Akab qui l'insulte. Il est resté confiant en Dieu dans toutes ces étapes-là. Et c'est pour ça que le premier point que je voudrais vous dire, les grands moments de votre vie se préparent à l'avance. Ça ne se joue pas sur une période très courte. Votre vie se dessine dans les années qui précèdent. Tous les choix que je viens de citer, les choix concernant le domaine du travail, du domaine du mariage, le domaine de l'église, etc. Ça se joue sur le long terme. Ça se prépare des années et des années à l'avance. Parce que le jour J, vous aurez très peu de temps pour réfléchir. Quand vous passez un examen, la réponse, vous l'avez ou vous l'avez pas. Mais excusez-moi de vous le dire, que c'est vos révisions de longtemps à l'avance qui vont payer ce jour-là. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Il y a un temps. Alors sur quoi ? Quel est le plan de Élie ? Parce que vous voyez, on va un petit peu plus loin. C'est là où c'était arrêté la semaine dernière. Et Élie va donc aller au devant de Akab. C'était au verset 19. « Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu rassembleras les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Akéra qui sont tous entretenus par la reine donc Jézabel, la femme d'Akab. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. » On approche du jour J, mais c'est les années d'avant qui comptent. Voyez, je voudrais vous dire qu'il y a un plan de Dieu dans votre vie. Et ce plan de Dieu, Dieu le construit année après année. Élie, le plan de Dieu, parce que vous allez me dire, mais tout va se jouer au Carmel. Carmel, c'est le moment clé de la vie de Élie. C'est le moment clé où il va être confronté à 450 prophètes démoniaques de Baal en face, en transe, qui sont complètement possédés. Il est en face d'un peuple qui n'en a pas envie de lui. Il est en face d'un roi qui veut le faire mourir. Donc c'est le moment où il joue tout. Élie joue tout au Carmel. Mais seulement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un plan de Dieu qui est préparé des années à l'avance. La parole de Dieu, il l'avait eu des années à l'avance. C'était 3 ans avant que Dieu avait dit à Élie, « Je vais arrêter de faire pleuvoir sur le pays. » Et c'est des longtemps à l'avance que Dieu a dit à Élie, « Je referai pleuvoir. » Lorsque tu fais les choix de la vie, est-ce que tu t'appuies sur une expérience profonde, enracinée dans le temps ? Je sais que mon appel à titre personnel, je me rappelle très très bien, c'était en 1995, j'étais dans un camp d'ado, un camp comme peut-être certains vont vivre avec le DNJ, comme d'autres ont vécu avec le week-end d'ado qu'il y a eu, ou comme nos plus jeunes sont partis cette semaine à Saint-Lunaire, dans un camp cette fois-ci pour nos collégiens. C'est des temps avec Dieu qui sont déterminants, parce que ça prépare des années à l'avance ce que va être notre vie. Et moi, j'étais dans un de ces camps d'ados et j'avais un petit peu de temps, et c'est bien de prendre du temps pour prier. Et il y avait des réunions de qualité, c'était un moment de cocooning avec Dieu. Et dans ce moment-là, faut pas rater ces temps-là. Vous n'en avez pas beaucoup dans votre vie, des temps comme ça. Et bénissez vos enfants en leur permettant de vivre ces temps-là. Donc mes parents avaient pris sur leur argent pour pouvoir me permettre d'être dans un de ces camps où j'ai cherché la face de Dieu, où je priais. Et je me rappelle très bien, j'ai une pensée dans mon cœur, qui m'a rappelé qu'il y avait un appel dans ma vie, que Dieu avait prévu pour moi, que j'apporte la parole plus tard, etc. Je l'ai marqué, je l'ai écrit, j'en ai parlé à mes copains. J'aurais dit, voilà, vous savez pas quoi, c'est sûr, c'est fait, c'est confirmé. Ce que j'avais dans mon cœur depuis des années, Dieu le confirme. Bon, c'est pas en 1995 que je suis devenu pasteur. J'ai été reconnu, j'ai commencé à être pasteur stagiaire 6 ans plus tard. Voilà, il y a des délais dans votre vie. Mais ça se prépare avant. Ça se prépare avant. Parce qu'il y a un temps de Dieu. Et Élie a dû attendre les 3 ans que Dieu avait prévu de formation. Deuxième point. On a vu les années à l'avance. Le temps du choix se prépare des mois à l'avance dans ton caractère. Au verset 20. On lit ensemble le verset 20. Akab envoya des messagers donc. À tous les Israélites, il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria. Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit, je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène deux taureaux et qu'ils choisissent pour l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bois, j'y ne mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez l'Éternel votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Et le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord, c'est bien. Vous voyez, le caractère de Élie, il est préparé avant ce moment. Dieu a préparé le caractère d'Élie depuis 36 mois. Ça fait 36 mois que Élie est testé par Dieu, préparé, corrigé, émondé. Parce que le jour J, quand il va arriver au Carmel, il a besoin d'avoir un caractère, premièrement, courageux et deuxièmement, décidé. Courageux parce que les personnes qu'il a en face de lui, ils sont incroyablement hostiles. Je ne sais pas si tu as des choix dans ta vie comme ça, où tout le monde est ligué contre toi. Ce jour-là, au Carmel, il a 450 faux prophètes en face de lui, un roi et un peuple qui ne l'aiment pas. Vous savez ce qui se passe si vous n'êtes pas préparé? Vous partez. C'est pas possible de tenir une pression aussi forte si vous n'avez pas un cœur extrêmement courageux préparé des années à l'avance. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux pour se lever pour lui et qui sont prêts à faire les choix. Et il donne une leçon à tout le monde, parce qu'il est légitime pour le faire. Quand le peuple, il pose la question au peuple, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le. Mais arrêtez de marcher des deux côtés. Arrêtez de faire un petit peu Dieu, un petit peu Baal. Un petit peu Dieu, un petit peu Baal. Comme vous vous faites aussi dans votre vie. Dieu dit, il y a un moment où il faut du courage. Le courage, c'est choisir. Le courage, c'est dire, qu'est-ce que je prends comme position? Et Élie est légitime à le dire parce que c'est quelqu'un qui sait être courageux, qui a su faire des choix, et ces choix, il les a fait des mois à l'avance. Et quand il arrive en face du peuple, il est complètement légitime pour dire, vous aussi, maintenant, c'est votre jour pour choisir. Son cœur est prêt, il a un cœur complètement courageux, il n'a pas peur de ce qui se passe. Il sait qui est Dieu, il sait que Dieu a pourvu avec les corbeaux, il sait que Dieu a renouvelé l'huile dans la jarre, il sait que Dieu a pourvu pour la farine, il sait que Dieu était celui qui donnait l'eau du torrent et qui enlevait l'eau du torrent, il sait que Dieu est Dieu et il est courageux pour cela. Vous savez, une église qui grandit, une église qui bénit. Moi j'ai certaines personnes qui me disent, mais pasteur Yvan, dites-nous quels sont les secrets qui font que vous avez la chance de vivre cette croissance dans l'église de Créteil, que les étapes passent les unes après les autres. Qu'il y avait une petite salle, puis un culte, deux cultes, puis une plus grande salle, un culte, deux cultes, trois cultes, et puis bientôt une beaucoup plus grande salle. Et je dis, c'est vrai, c'est merveilleux ces paliers-là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait de plus? Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas la même pour tous? Si, la grâce de Dieu est la même pour tous. La grâce de Dieu est la même pour tous. Moi, je vais pas dire qu'on a un Dieu plus grand que les autres églises. On a tous le même Dieu. Je peux vous dire, Dieu cherche. Et quand je regarde, des fois, en passant simplement par la banque d'accueil, quand je vais regarder dehors ce que font, je vois une chose, je vois des gens extrêmement courageux. Dans tous les niveaux de l'église, des personnes qui sont prêtes à passer du temps, elle n'est pas là ce matin, donc je peux en parler, enfin, je ne l'ai pas vu, Jessica par exemple, qui est prêt à passer des heures, à les bouger. Il y a des personnes qui sont prêtes à se positionner, vous voyez. Quand je pense que c'est Jessica qui allait chercher la bouteille de gaz pour faire dans une station-service, c'était la première fois de sa vie qu'elle faisait, pour pouvoir faire les repas tout à l'heure pour les musiciens. Vous voyez, s'il n'y a pas des gens courageux qui vont au-delà de ce qu'ils savent faire d'habitude. Elle était là, elle me disait au téléphone, « Yvan, qu'est-ce qu'on prend, du butane ou du propane ?» Mais moi, je savais pas. C'est une maman avec une petite fille de moins de 2 ans qui va chercher la bouteille de gaz. Il faut qu'il y ait des gens courageux. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a pas une génération. Et c'est le secret de l'église de Créteil, c'est pas un Dieu plus grand, on a le même Dieu. On n'est pas plus intelligent que les autres, on n'est pas plus... C'est du courage, mes amis. C'est est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Je prends position pour Dieu et je fais des choses que je ne suis pas habitué à faire, je suis prêt à prendre des risques, comme Élie prend un risque ce matin-là. » Parce que quand il est en face de Akab, c'est un risque. Si jamais il se plante, si jamais Dieu ne répond pas par le feu, il est mort. Si Dieu ne répond pas ce jour-là, il est mort. Vous comprenez cela? Il y a un moment où vous allez être obligé d'aller au-delà de vos limites. Parce que si vous restez dans votre confort, vous restez dans votre lit, même s'il est un peu petit, à Sarepta. Parce que la gentille veuve, elle va vous faire un petit casse-croûte pour midi. Elle va vous amener peut-être le petit déjeuner. Alors vous pouvez être en prière en disant « Seigneur, je te bénis pour tous les gens qui vont être en Carmel aujourd'hui, tu leur fais du bien, Amen. » Mais sauf qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille au Carmel ce jour-là. Il fallait quelqu'un qui prenne le risque de se lever devant la foule et de dire « Voilà, il est un temps où dans votre vie, vous devez vous positionner. » Et il a un peuple en face de lui qui lui répond quoi ? Qui répond rien ! Et vous voyez, il y a quelque chose de très dangereux dans l'indécision. Ce qui est plus facile à faire, c'est de rien faire, de rien dire. Les gens ne savent pas que répondre. Ils n'ont pas envie. Ils sont culpabilisés. Ils savent très bien qu'ils ont abandonné Dieu. Et en même temps, ils n'aiment pas trop Baal quand même, parce qu'ils voient que Baal ne les a pas beaucoup bénis depuis 3 ans. Ils sont en train de mourir de soif. Mais pour autant, vous voyez, ils sont dans la décision. À l'heure de la décision, la neutralité, c'est une mauvaise attitude, mes amis. Tu ne peux pas vivre ta vie en disant « Je remets mon choix plus tard. » Il y a un moment avec Dieu, tu prends position ou tu ne le prends pas. Et c'est ça qui fait qu'à long terme, ta vie est une vie qui grandit ou une vie qui diminue. C'est à ce moment-là que quelqu'un qui ne prend pas de décision va commencer à faire des zigzags sur la route. Alors que quelqu'un qui prend une décision va dire « Voilà, Seigneur, je me lève pour toi et j'assume ce choix. Je l'ai fait en priant, je l'ai fait en ayant un cœur préparé. Ça fait des années que j'ai écouté ta parole et que je suis basé sur ta parole. Je crois qu'il y a un plan de Dieu derrière tout ça. Je crois que depuis des mois, tu as travaillé mon cœur, tu m'as appris la patience, tu m'as appris à dépendre de toi. Et en fonction de cela, je prends cette décision. » Quel cœur décidé. Vous savez, la Bible dit, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez bien, beaucoup de pasteurs prêchent sur ce thème quand on arrive au Mont Carmel, c'est « Puisses-tu être froid ou bouillant, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. » Et c'est vrai que ça paraît très très dur ce texte. Mais l'indécision, c'est un fléau, mes amis. Parce que vous allez rester dans le tiédasse toute votre vie. Et quelque part, votre vie, elle va être indigeste. Prenez des positions pour Dieu. Quand il est au Carmel, et je termine sur ce point des mois de préparation, il a choisi depuis des mois où est-ce qu'allait avoir lieu le rendez-vous. Vous savez quel endroit il a choisi ? Il a choisi le mont Carmel. Le mont Carmel, c'est le mont qui est en face de Sidon. C'est un provocateur, Élie. Hein. C'est un provocateur. Il a du courage. Il a des tripes, mes amis, parce qu'il va en face de la ville de Sidon, sur le mont d'Israël, qui est le plus exposé. Et il rencontre les 450. Il avait demandé d'ailleurs aux 400 prophètes d'Astarté d'être là, ils ne sont pas venus, dis donc. Vous avez remarqué ça ? Par des petits détails étonnants de la Bible. Il avait demandé à 850 de venir, il n'y en a que 450 qui sont venus. Je ne sais pas s'ils avaient peur de lui. C'est étonnant, hein ? Vous savez que des fois, les ennemis ont peur de vous, alors vous vous sentez tout faible. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, ils vous considèrent comme des beaucoup plus gros que ce que vous voyez. Hein. Enfin, il est là, 450, le peuple, etc. Et en face du mont Carmel. Le mont Carmel, c'est le mont de l'orage en Israël. C'était l'endroit où il y avait des orages, la tempête, le feu. C'était, vous savez, parce que c'est les premières montagnes, donc les nuages s'accrochent sur les montagnes. Et ce mont Carmel, ce nom Carmel en origine, en dialecte là-bas, c'était vraiment le mont de l'orage, le mont du feu. C'est pour ça qu'il dit, vous allez vous réunir sur la montagne de l'orage, la montagne du feu. Et on va voir qui c'est qui amène le feu. Parce que vous savez très bien que s'il y a de l'orage, il y a de la pluie. Donc s'il y a de la pluie, c'est la fin de la sécheresse. Et c'est pour ça que Baal était le dieu de l'orage et le dieu de la pluie. Donc il dit, je suis prêt à aller dans le camp de l'ennemi pour aller le défier. Je suis prêt à me placer en face de Sidon, sur le mont de l'orage, du dieu Baal, avec 450 prophètes de Baal, vous regarder droit dans les yeux et dire, l'Éternel est Dieu. Waouh! Waouh! Je ne sais pas s'il y a eu un journal, si TF1 était là, ou les 20h de France 2, la bataille des dieux au Carmel ce soir. C'est beaucoup plus important que le duel Mélenchon-Le Pen. Hein. Là, c'était deux vrais challengers. Vous savez, dans les deux cas, il n'y a aucun des deux qui risque ses finances là-dessus. Hein. Je vous rassure, Mélenchon et Le Pen, ils ne sont pas à un mandat près. Ils jouent finalement pas tant que ça. Ils jouent leur réputation à la rigueur, c'est tout. Et encore, la politique, ça change. Par contre, là, ce jour-là, au Carmel, il y a un dieu qui rencontre un peuple. Et t'as intérêt d'être du bon côté. Et t'as intérêt d'être du bon côté. Allez, troisième point. Troisième point, les heures. Les dernières heures avant le choix. Avant le moment décisif. Au verset 25. Au verset 25. Il va falloir de la patience. C'est étonnant, mais jusqu'au dernier moment, il faut être patient. C'est ce que m'apprend Élie dans ce texte. Jusqu'au dernier moment, il faut être patient. Élie va dire quoi ? Il va dire au prophète de Baal, verset 25, Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, ils le prirent, le préparèrent, puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'au midi en répétant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé vers midi. Élie se moqua d'eux et leur dit « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, il a dû s'absenter ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. » Si jamais Dieu n'intervient pas derrière, il est mal. Parce que ses paroles... Vous avez intérêt d'être sûr de vous pour faire ce genre de blague. Hein. Ça montre qu'il est quand même d'un courage incroyable. Hein. Il sait qui est Dieu. Hein. Fais pas comme les chrétiens si t'es pas chrétien. C'est ce que les fils de Sheva ont appris avant de se faire dépouiller par les démoniaques. Faut pas faire semblant. Si vous n'êtes pas motivé pour Dieu et vous n'avez pas pris des choix pour Dieu, prenez pas la Sainte Cène, c'est dangereux. Je vous dis franchement, c'est dangereux. Si vous n'avez pas choisi l'Éternel, faites pas comme si vous l'avez fait. Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps. L'heure de midi était passée. Ils demeurèrent dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Il a attendu toute la journée. Vous voyez, on est en train d'analyser les heures. On a vu les années, on a vu les mois, tous les jours qui étaient avant. Donc là, on va voir maintenant les heures, les dernières heures. Les dernières heures, c'est quoi ? Pourquoi il faut être patient ? Pourquoi il faut être patient dans les dernières heures ? Pourquoi Élie n'a pas dit, je vous donne, allez, jusqu'à... Ils sont en train de... Je ne sais pas si vous imaginez, Israël. Moi, j'étais en Turquie un petit peu, c'est au-dessus. J'étais à Éphèse pendant quelques heures. On m'a dit, il faut pas rester au soleil comme ça trop de minutes parce que tu vas être brûlé, quoi. Mais ça tape, hein. Sur le mont Carmel en Israël à cette époque-là. Attendre toute une journée, c'est un risque fort d'insolation, hein. Et il est là et il est patient. Il laisse les prophètes de Baal. Je sais pas si au bout de quelques minutes, vous en auriez pas eu marre d'entendre en plus. Je sais pas si vous avez vu ce qu'ils font, hein. Mais c'est-à-dire, c'est des prières aux démons, etc. Toute la journée, écoutez ça. La leçon que je retire de ça, c'est que alors que tu as quelques heures de la décision, analyse bien ton environnement. Ça, c'est la leçon qu'Élie m'apprend. Il dit, le jour de la décision, ce soir, il va se passer quelque chose. Prends ton temps jusqu'au dernier moment pour bien analyser les choses, pour bien voir ce qui se passe. Et je vais même aller plus loin. Tire leçon des erreurs des autres. Il dit au Baal, allez-y en premier. Faites votre méthode à vous. Je vous laisse la priorité. C'est pas qu'il a pas envie d'y aller, parce qu'on sait qu'il est courageux, il peut très bien y aller en premier. Mais alors pourquoi il laisse les prophètes de Baal aller en premier? Premièrement, il démontre quelque chose. Vous avez vu, il dit, préparez donc les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Première leçon que Élie va tirer de cela, c'est pas le nombre qui compte. C'est pas le nombre qui compte. C'est pas avec vos moyens naturels, votre nombre, votre force que vous allez gagner. Vos choix les plus importants, c'est pas avec le nombre de billets que vous allez les gagner. Parce que sinon, tous ceux qui sont riches feraient les bons choix. Or, on se suicide aussi dans des villas à Hollywood. Ça veut dire que c'est pas une question de moyens. Il y a 450 bonhommes et il n'y a pas un Dieu qui répond. Parce que c'est un faux Dieu. Et ils ont fait le mauvais choix. Alors 450 personnes pour un mauvais choix, ça donne rien. Ça donne rien. Qu'est-ce qu'il a, Élie? D'ailleurs, c'est pas tout à fait 450 contre 1, c'est 450 contre 1 plus Dieu. Et 1 plus Dieu égale plus que 450. La puissance n'est pas dans le nombre. Alors après, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il va tirer une autre leçon. Au Baal, répondez-vous, c'est ça. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Criez plus fort, qu'il leur dit. Ils crièrent à tue-tête. La puissance n'est pas dans le bruit non plus. C'est pas parce que tu gesticules, que tu cries, que le choix sera bon. Et là, des fois, en tant que chrétien, on prend une petite leçon. Parce qu'on a l'impression, des fois, dans nos choix, que plus on fait du bruit, plus on crie à Dieu, et plus le choix va être bon. Je suis pas d'accord. C'est pas ça qui caractérise un bon choix dans une vie. C'est pas parce que vous êtes là en train de gesticuler avant le choix du conjoint en disant « Seigneur, je te donne 2 jours pour me répondre, et puis tu me donnes maintenant la personne de ma vie, etc. » Et tu gesticules. C'est pas ça qui va faire que tu vas faire un bon choix. On met pas la pression à Dieu. On met pas la pression à Dieu pour ses études. On n'a pas besoin de mettre la pression à Dieu pour tous les choix de votre vie. Quand vous cherchez un endroit où vous placez, soyez dans la paix. C'est pas par le bruit, par le fait de sauter ou de pas sauter. C'est pas ce que vous faites qui compte. Je regarde aussi et je vois qu'ils ont commencé à se faire des incisions. C'est vraiment, ils étaient complètement fous ces gens-là. Ils étaient en train de se couper. C'est pas parce que tu te fais du mal que Dieu va te bénir plus. Et ça, c'est quelque chose que les religions ont souvent fait. Cette idée que si jamais vous souffrez, vous-même, vous faites du mal, Dieu va être plus gentil avec vous. Mais c'est quoi ce chantage maso? Dieu rentre pas là-dedans. Ah mais vous le faites, hein, des fois. Des fois, vous avez l'impression que quand il y a un choix, si vous avez fait assez de prières, assez de jeûnes jusqu'à avoir vraiment très très faim, du coup, Dieu va vous bénir. Attendez. Dieu va vous bénir parce que c'est votre père. Parce que vous êtes son enfant. Moi, si un jour, Ethan me fait une grève de la faim pour que je lui réponde, je lui dis, mais attends, mais t'as un problème, petit. C'est très un peu paradoxal ce que je vous dis. Peut-être ça doit choquer certains, mais... Bien sûr que le jeûne est important, mais regardez dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit sur le vrai jeûne? Quand tu fais le vrai jeûne, déjà, ta nourriture, c'est pas une question uniquement de nourriture, parce que ta nourriture, par exemple, tu donnes tout l'argent que tu as économisé pour le donner aux pauvres. Ça, j'entends jamais ça. Mais c'est ça le vrai jeûne. Hein. Il y a toute une démarche vers l'autre et vers l'écoute de qu'est-ce que Dieu attend. C'est pas du tout un jeûne, c'est pas imposer son opinion à Dieu. Un jeûne, c'est écouter qu'est-ce que Dieu veut et avoir une meilleure perception du choix de Dieu. C'est pas du tout faire un espèce de chantage affectif avec Dieu en disant « Vu ce que j'ai fait, Seigneur, t'as intérêt de me répondre !» Et beaucoup de chrétiens se disent, bah, puisque j'ai passé plus de temps dans ceci, dans cela, et ben Dieu, tu dois me répondre maintenant. Bah, excuse-moi, mais les prophètes de Baal, ils en faisaient autant, ils sont même allés jusqu'à se couper, se planter des lances, l'eau, le sang ruisselait sur leur corps, et ben ils n'étaient pas exaucés. La puissance n'est pas dans le nombre, la puissance n'est pas dans le bruit, la puissance n'est pas dans les œuvres de piété comme un chantage pour Dieu. La Bible dit « L'heure du midi était passée, mais ils demeurèrent dans un état d'exaltation. Jusqu'au moment de l'offrande du soir, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. » En hébreu, le mot exact, c'est Chouraki qui le dit, il n'y avait pas de voix, pas de répondeur, pas d'attention. « Allô Dieu ?» Pas de répondeur. Même pas un message, rien. Veuillez laisser un message sur la boîte vocale. Votre correspondant est absent, veuillez. Rien, pas de répondeur. Il n'y a même pas d'attention, parce que c'est un faux Dieu, c'est un mauvais choix. Et là, Dieu ne répond pas. Et il attend. Vous savez, alors vous allez me dire, mais pasteur, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire, mais alors la puissance, elle est d'où? Elle vient d'où? La puissance, elle vient de ta foi dans la parole de Dieu. Point barre. La puissance, elle vient, Élie, du fait que Dieu t'a dit, va chercher Akab, l'eau va tomber, il va pleuvoir. Et sur cette parole de Dieu, tranquillement, Élie va se positionner en face et il sait que Dieu va répondre. Ta force, elle est dans ta foi, dans la parole de Dieu. Seigneur, dans ce livre, tu as donné la parole pour laquelle j'ai besoin, pour les choix de ma vie. Oui, mais j'aimerais, Seigneur, que tu me dises quand même quelles exactement les études que je dois choisir. Prends ton temps, ça se joue sur le long terme. C'est pas parce que tu fais, t'étudies telle matière ou telle autre matière que ta vie va se jouer. Ta vie, elle va se jouer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, sur le long terme. Le choix de tes études est important, mais c'est un ensemble de choix qui fait ta vie. Est-ce que tu te positionnes pour Dieu ou pas? Prends du temps et lis et regarde ce que les autres font. Tire des leçons des erreurs des autres. J'espère qu'on est capable de se dire « mince ». Des fois, c'est l'avantage de ceux qui sont les cadets dans les familles. On voit ce que les aînés font. Et on peut se dire, oui, 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 ça c'était une mauvaise idée. Quand on voit la sœur qui commence à fréquenter des mauvaises personnes et qui s'engage sentimentalement dans les mauvaises pistes, on se dit, oh là, ça ne faudra pas faire ça plus tard. Parce que les résultats ne sont pas bons vu qu'après des années, elle est encore célibataire avec beaucoup de blessures et plein de complexités dans sa vie. Mais alors, si t'es l'aîné, t'as intérêt de te positionner comme Élie dès le début pour Dieu. Hein. Alors, on a un dernier point à voir. On termine ce matin avec les minutes. Les dernières minutes. Verset 30. Alors, Élie ordonna tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » On fit ainsi. « Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. » Ils le firent. Une troisième fois, ils le firent. Une troisième fois, l'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire. L'heure du choix, les minutes avant de faire votre choix. Il dit aux autres, « Allez, venez. » Il n'a pas peur, il est entouré. Première chose, il s'appuie sur le passé. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va prendre l'autel qui était démoli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait eu en Israël des personnes qui avaient un jour bâti un autel. Vous n'allez pas réinventer la vie, mes amis. George Orwell, il a dit, Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Ça veut dire qu'en Israël, il y a de cela, je ne sais pas moi, une ou deux générations avant Élie, et il y a eu des hommes et des femmes qui s'étaient réunis pour faire un autel et pour dire « l'Éternel est notre Dieu ». Sauf qu'avec le temps, une autre génération derrière avait fait un autre choix, avait laissé l'autel être démoli pour adorer les Baals. Et Élie va dire « on va revenir à nos anciens ». Il y a des choses que tu as à apprendre de ta grand-mère, de ta mère, de ton père. Tu ne vas pas réinventer. C'est pour ça qu'on est, on est très ambitieux quand on a 18 ans et qu'on pense qu'on va faire mieux que la génération d'avant. C'est pas vrai? Regardez tous ceux qui ont un petit peu vieilli, là, qui approchent de la quarantaine, de la cinquantaine. Quand vous dites, purée, je pensais que j'allais faire mieux que la maman. Et en fait, vous vous rendez compte, vous n'avez pas fait mieux. Et chaque génération se croit plus intelligente que l'autre. Qu'on va révolutionner, qu'on n'a pas besoin des acquis, que, oh, ma mère, elle était trop possessive, moi, je vais être comme ceci. Oui, mais tu tombes dans l'autre extrême inverse. Et du coup, ta fille va te prendre comme contre-exemple en disant, faudra être comme mémé. Tout ça pour ça. Et la fille de ta fille, elle te reprendra peut-être comme exemple en disant, ah, faut pas être aussi possessif. Chaque génération pense qu'on va réinventer. Et alors, prenez ce qui est bon dans les anciennes générations. Il y a des choses bonnes. Ils vont prendre les 12. Et là, encore une fois, il n'est pas diplomatique quand il fait ça. Parce que le royaume d'Israël, et là, je vais un petit peu plus loin, parce que je veux aussi que vous ayez un enseignement sur la Bible, de connaissance. Le royaume d'Israël est divisé, on est d'accord. Il y avait les 10 tribus, et il y avait la tribu les tribus de Juda qui s'étaient rassemblées. Il y avait deux tribus qui étaient un petit peu à part. C'était les tribus du sud, essentiellement autour de Juda. Donc le royaume est divisé. Et ce que va faire Élie, c'est qu'il va dire, on reprend les 12 tribus. On va chercher les 12 pierres. L'unité. L'unité. L'unité, c'est pas faire l'unanimité. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que quand il prend les 12 pierres, je suppose qu'il y a des personnes de la tribu d'Issacar qui disent « Quoi ? Il prend une pierre pour Juda ? Cette tribu n'est pas la bonne tribu ! Il y a un autre roi à Jérusalem qui est un mauvais roi !» Mais il dit « Non, c'est des enfants de Dieu ça. Et je ramène et je vais pas croire qu'on est au-dessus, plus intelligent que les autres, plus chrétien que les autres. Méfiez-vous des églises qui critiquent beaucoup les autres églises. Parce que si on commence à dire « Ah, il n'y a que 10 bonnes pierres qui sont après les deux autres. » Prenez les pierres, toutes ces pierres que Dieu a unies et commencez à bâtir l'église. Vous avez des caractères différents, vous avez des visions différentes, mais dans l'unité, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une unité, Dieu bénit l'unité. Même si on a des caractères différents, des pensées différentes, il va bâtir cet autel. Il ne va pas faire l'unanimité, je pense qu'il y en a qui voudraient qu'il fasse des séparations. Et puis la vérité aussi, parce que je remarque qu'il en a mis de l'eau. Hein. Vous savez pourquoi il a renversé tous ces litres d'eau? C'est probablement de l'eau de mer, parce que le Carmel se jette dans la mer après. Et comme il ne devait plus y avoir beaucoup d'eau douce, à mon avis, ils ont dû bien saler l'autel. Hein. Ils ont amené des tonneaux d'eau de mer. Ils ont commencé à les verser, et des litres, et des litres, et des litres. Pourquoi ils versent tout cette eau là? Pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y a eu une petite truanderie quelque part. Qu'il avait du bois plus sec. Vous savez, il anticipe déjà les critiques. Et quand tu vas faire même des bons choix, il y a des gens qui vont te critiquer derrière. Par jalousie, parce que ton Dieu aura répondu. Et donc il dit non. On va être fair play. Mettez-moi de l'eau sur mon autel. Les Baals, ils n'ont pas eu d'eau sur leur autel. Hein. Il dit, vous me mettez de l'eau. Il verse de l'eau. Deux fois. Allez, une troisième pour la route. Rempli d'eau. Et une fois que c'est complètement trempé, il dit, à l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi l'Éternel qui est le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Et à ce moment-là, le peuple, bien sûr, il se convertit, mais c'est facile. Je loue le courage de cet homme qui s'est positionné. Et à la fin, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Il ne dit pas c'est grâce à mes calculs, mais ma super préparation. Il dit c'est l'Éternel qui depuis toujours avait un plan. Tu avais envie de les ramener à toi. Vous voyez, il n'est pas en train de s'en centrer sur sa personne. Il dit, Seigneur, c'était ton projet qu'ils soient tous de retour dans ta maison et que tu veux rebâtir une unité dans ce peuple. Alors, Seigneur, je dis une chose. Réponds pour que ton nom soit glorifié. Est-ce que vous voulez que le nom de Dieu soit glorifié sur la terre? Ben, faites des bons choix, alors. Préparez-vous des années à l'avance. Préparez-vous des jours à l'avance. Préparez-vous bien dans les heures à l'avance. Préparez-vous bien le jour J, dans les dernières minutes, soyez dans les préparatifs. Centrez bien sur vos valeurs. Il est bien resté sur les valeurs que sont l'unité, les valeurs que sont voilà le fait de mettre Dieu en premier. Il est resté sur des choses simples, mais c'est ces valeurs qui à la fin font la différence. Amen, on ferme les yeux ensemble. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, mes amis, nous sommes invincibles. Seigneur, c'est sur ta parole que nous nous appuyons. Tu as des projets pour nos vies, tu nous l'as dit, tu nous l'as écrit. Je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Combien plus forte raison le Père Céleste veut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont cette patience de Élie, ce courage d'Élie, cette décision d'Élie? Même si ça prend des heures, ça a pris des heures au Carmel. Mais Dieu sera glorifié. Alléluia. Seigneur, je veux prendre cette position ce matin de me faire tout petit et d'écouter ce que tu veux me dire. Je sais une chose, Seigneur, c'est que ce n'est pas mes forces à moi, mais c'est ta bienveillance. C'est ta bonté pour moi qui fait la différence.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance est éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va reprendre le deuxième strophe qui dit: ton règne vient, Seigneur, ta gloire est proche. Seigneur, que je sois à ma place et que je fasse les bons choix dans cette société. Le monde est difficile pour faire les bons choix. Vos amis vont vous pousser pour faire les mauvais choix. Vos proches, peut-être, vont vous donner de mauvais conseils. Cherchez Dieu. Gardez vos valeurs avec Dieu. C'est sur le long terme que ça joue. Seigneur.
Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas,
en gestion et en vérité,
recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner.
Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que je veux.
Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
Ta bienveillance, ô Éternel, que tout ce que j'ai vu,
ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
Ta bienveillance,
comme une prière ce matin, Seigneur, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Seigneur, je te fais confiance pour mes choix, vu, je te mets en premier.
Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut.
Le Seigneur fait lever dans cette salle, dans cette génération, des hommes et des femmes qui se positionnent pour toi. Aide-nous dans nos choix, Seigneur. Des fois, on hésite, on ne sait pas que faire. Donne-nous ce cœur qui est attaché à toi, quoi qu'il en soit. Comme Élie, donne-nous le courage pour faire le choix. Donne-nous d'être sûr de ta parole, de te chercher, de chercher ta face, même si ça prend des mois, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire des bons choix pour toi. Sois béni, Seigneur, pour ta conduite, la conduite de l'Esprit, parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, aide chaque personne dans ce lieu ce matin, ou chaque personne qui écoute ce message maintenant. Seigneur, tu le conduis, tu la conduis. Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place et vraiment...